Alors, bonjour à tous, un excellent sabbat à tout le monde. J'aimerais prendre le temps du sermon aujourd'hui pour examiner un livre qui est d'une importance capitale pour nous. Car, comme nous le savons, nous sommes à la fin des temps, nous sommes à la fin de l'âge, et nous voyons les événements tout autour de nous se déroulent de plus en plus à une vitesse grand V, à une vitesse folle, et de plus en plus, nous devrions dire, ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas la manière dont nous voulons vivre. Et le livre dont je veux parler aujourd'hui a été écrit pour une génération qui n'avait pas vu ou qui n'a pas vu de ses propres yeux ce que le Christ avait fait, ce que le Christ était, les miracles que Dieu avait fait en Égypte. Et nous, pareillement, nous n'avons pas été témoins de l'événement ou des événements qui ont lieu autour de la sortie d'Égypte. Nous n'avons pas non plus été témoins de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui a lieu 2000 ans avant nous. Donc, entre les deux événements que nous allons parler aujourd'hui, nous sommes à des générations de ces choses. Il y a énormément de générations qui ont passé entre les événements. Mais en même temps, ce livre devrait avoir un impact sur nous parce qu'il a été écrit pour une génération comme nous. Une génération qui n'a pas vu les événements qui sont survenus lors de l'Exode. Soit parce qu'ils n'étaient pas encore en vie à l'époque, soit parce qu'ils ne s'en souvenaient pas parce qu'ils étaient trop petits. Mais c'est la même chose pour nous. Notre génération n'a pas vu aucun de ces événements. En fait, Dieu pour nous, et les miracles qu'il a faits sont très loin en arrière. Donc, le livre que nous lirons aujourd'hui et que nous devons connaître, si vous ne l'avez pas déjà deviné, c'est le livre du Deutéronome. Donc, nous allons faire une étude plus générale sur le livre de Deutéronome. Et je voudrais dire que ce livre est pour notre génération. En fait, c'est le titre du sermon aujourd'hui, Deutéronome, un livre pour notre génération. Donc, Deutéronome, un livre pour notre génération. Nous sommes la génération qui est également sur le point d'entrer dans le millénaire. Tout comme le livre de Deutéronome a été écrit pour une génération qui était sur le point d'entrer en terre promise. On voit des significations, des rapprochements extraordinaires que nous pouvons faire entre les deux. Donc, fixons premièrement la date quand le livre du Deutéronome a été écrit, afin que nous sachions quand ce livre a pris et est devenu en existence. Donc, reportez-vous, si vous voulez bien, à Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Et nous allons commencer ici au verset 1 à 3. Deutéronome 1, verset 1 à 3. Il est écrit, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Chouf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth, Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadès-Barnéa. Mais dans la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois. Donc, nous voyons ici que nous sommes dans la 40e année, au 11e mois et le premier jour du mois. Et nous savons très bien que, juste au début de la prochaine année, ou l'année suivante, ils vont prendre la Pâque dans les plaines de Jéricho. Vous pourrez aller lire ça dans Josué. Donc, nous pouvons ici voir que nous sommes à la 40e année, la fin du séjour d'Israël dans le désert. Et donc, toute cette nouvelle génération est sur le point d'entrer en terre promise. Et il est évident que nous ne pourrons pas couvrir tous les chapitres de Deutéronome dans une heure, mais nous allons regarder les points forts et les placer dans la perspective que Dieu veut que nous comprenions et ce qui est important pour nous de savoir, parce que nous sommes aussi cette génération qui est sur le point de passer à autre chose. C'est un livre pour nous. Donc, les trois premiers chapitres sont plutôt historiques, mais il est toutefois intéressant de noter que Dieu avait une structure de mise en place. Si vous regardez, nous sommes dans Deutéronome 1, allez un peu plus bas dans Deutéronome 1, verset 15, vous allez voir que Moïse prend des dispositions et inclut ou apporte une structure. Moïse dit au verset 15, « Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10, ayant autorité dans vos tribus. » Donc, on voit une structure qui est mise en place. Tout comme aujourd'hui, M. Weston est le leader humain présentement de l'Église. Il y a une structure sous lui. Il y a des évangélistes. J'espère que vous les connaissez tous. Et ensuite de ça, il y a des pasteurs. Il y a des ministres. Et ensuite, en dessous de ça, pour s'occuper du physique, il y a les diacres. Mais il y a une structure de mise en place. Donc, comme des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Et des chefs de 10, comme il est écrit dans Deutéronome 1. Et le verset 16 nous dit « Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. » Donc, il y a une structure de jugement qui est donnée. Il y a des juges qui sont mis en place. « Écoutez, vos frères, et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. » Comme la justice du monde aujourd'hui serait différente si ce principe-là était appliqué aujourd'hui, où il n'y aurait pas de différence entre les riches et les pauvres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas notre monde. Donc, vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, et pour que je l'entende. Ici, c'est Moïse qui parle. Donc, au fur et à mesure que si les cas sont plus compliqués, on monte dans la hiérarchie, dans la structure, pour remonter jusqu'à Moïse, comme on fait présentement aujourd'hui, lorsqu'il y a une situation qui est plus difficile, plus corsée. Un ministre va faire la même chose. Un pasteur va faire la même chose. Lorsqu'il y a des situations difficiles, j'en parle avec mon supérieur étant M. Vavitch, M. Goss. Donc, je parle avec ces hommes. Si c'était plus compliqué que ça, ça remonte à Charlotte, à M. McNair, à M. Winner. Et ensuite de ça, si ça va plus loin, ça va aller jusqu'à M. Weston. M. Weston va être au courant. Donc, cette même structure-là est en application aujourd'hui. Donc, on voit qu'une structure est mise en place. Maintenant, comme j'ai dit, les trois premiers chapitres sont majoritairement historiques, donc vous pourrez lire si vous voulez. Mais reportons-nous maintenant à Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 4, versets 1 et 2. Regardez ce que Christ dit à la nouvelle génération. Qu'est-ce que Christ nous dit à nous? Nous sommes la même chose. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Est-ce que nous avons écouté? Est-ce que nous entendons ce qui est dit? Il y a quelque chose à faire. Et maintenant, le verset 5. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Pourquoi? Parce que nous appliquons les lois de Dieu. Nous devons être cette Église, cette famille, cette nation qui enseigne le mode de vie de Dieu. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons être différents par rapport au restant de l'humanité. Les gens doivent voir que nous sommes différents. C'est important que nous connaissions ces choses-là. Descendons un peu plus bas, s'il vous plaît, dans Jean, dans Deutéronome 4, le verset 15 cette fois-ci. Encore une fois, en verset 14, on a « En ces temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. » Donc, il y a un commandement qui est donné, et Moïse agit, apporte le commandement, les ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez prendre possession. Dieu répète les choses. Et le verset 15, il nous est dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Donc, ils n'ont jamais vu la forme, ou n'ont jamais vu Dieu directement. Personne n'a jamais vu Dieu directement, ou Dieu le Père encore plus. Nous ne disposons d'aucune description de ses caractéristiques physiques dans la Bible. On a des termes généraux. Il a des pieds, il a des mains, il a des yeux. Mais on ne connaît pas les traits. On ne connaît pas les choses. Et Christ nous dit aussi, si vous vous reportez, gardez votre place dans Deutéronome, nous revenons directement là. Mais si vous allez dans Jean 1, Jean 1, verset 18, le Christ nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui vous l'a fait connaître. Donc, une des missions, un des buts que Dieu Christ avait est de nous révéler la présence du Père. Parce que le Christ était le Dieu de l'Ancien Testament. Et si vous allez dans Jean 5, juste un peu plus loin dans l'Évangile de Jean, Jean 5 et le verset 37, Jean 5, verset 37, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Encore une fois, on n'a pas vu, personne n'a vu Dieu le Père ou entendu sa voix. Donc, nous voyons donc le Christ définir ici qu'il y a une distinction. Et même lorsque le Christ parlait aux êtres humains sur le mont de Sinaï, il était toujours enveloppé. Enveloppé de nuages, enveloppé de feu. Même lorsque Moïse voulait s'approcher du buisson ardent, Christ a dit « Arrête! » Christ était protégé par du feu. Donc on voit cette importance du personnage avec lequel nous faisons affaire. Et donc, si on revient à Deutéronome 4, il y a encore une fois le verset 15, « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. » Donc, on ne doit pas faire aucune image. Donc, avez-vous remarqué ici, dans les versets 15, 16, 17, 18, 19, ou 18 plutôt, Le Christ, il parle directement du premier et du deuxième commandement. De ne pas avoir d'autres yeux devant sa face, mais aussi de ne pas faire aucune image, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous pouvez aller voir dans Exode 20, vous allez pouvoir retrouver ces textes-là directement. Donc, c'est absolument important que l'on voit que le Christ répète ici cette même information. Et si vous allez maintenant dans le chapitre 5, vous allez voir que Christ va répéter les 10 commandements. Et encore une fois, le premier commandement, en commençant au verset 6 de Deutéronome 5, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Donc, on voit qu'est-ce que je viens de vous dire. Et au verset 8, « Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, et tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un juge jaloux qui punit l'iniquité des pères, des enfants, etc. » Et vous avez la suite des 10 commandements. Donc, les 10 commandements que le Christ ici répète sont pour la nouvelle génération. Donc, encore une fois, ce sont des commandements qui sont en vigueur aujourd'hui. Nous devons l'appliquer aujourd'hui, nous devons le faire aujourd'hui. Il s'agit d'obligations. Ils ont force de loi. Ils sont en application. Et nous pouvons et nous devons les suivre. Il n'y a pas d'autre décision, pas d'autre possibilité. Maintenant, allons dans Deutéronome chapitre 6, s'il vous plaît. Encore une fois, on survole le livre de Deutéronome pour qu'on voit l'importance de ce livre-là pour nous aujourd'hui. Deutéronome 6, à partir du verset 1. « Voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession, donc dans le pays dans lequel nous sommes, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. » En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de tes fils, donc toutes les générations qui suivront, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Il y a des promesses qui sont attachées à ce qui nous est dit. Verset 3, tu écouteras donc Israël, tu auras soin de les mettre en pratique. Le verset 4 nous dit quoi? Il dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Comme j'ai mentionné dimanche dernier à la Pentecôte, est-ce que l'on s'aperçoit que c'est toujours la même chose que Dieu cherche? Dieu veut que l'on le cherche de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre corps. Que l'on applique les lois que Dieu nous donne. Et regardez le verset 6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Nous avons la possibilité aujourd'hui de les avoir dans notre cœur. À cause de quoi? En raison de quoi? En raison du Saint-Esprit qui nous a été donné au baptême. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu l'Esprit de Dieu par l'imposition des mains. Et à ce moment-là, l'Esprit vient en nous et nous permet encore une fois d'avoir la loi de Dieu s'inscrire sur nos cœurs, dans notre esprit. Et tu les inculqueras, verset 7, à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, ils seront comme un fronteau entre tes yeux. » Encore une fois, frères et sœurs, la main et le front sont des synonymes de quoi? Sont des synonymes de nos actions. Qu'est-ce que nous faisons avec nos mains? Et lié sur notre front et à l'intérieur de nos 12 oreilles. Pour orienter nos pensées, orienter qu'est-ce que nous faisons, comment nous parlons, qu'est-ce que nous faisons. Donc, on voit cette signification-là qui est utilisée ici. La puissance de ces choses-là. Et non, ce n'est pas des phylactères que les Juifs utilisent. Absolument pas. Dieu ne nous demande pas d'avoir des petites boîtes sur nos poignets ou sur nos mains, une petite boîte dans notre front. Ce que vous voyez parfois dans, si vous regardez à Jérusalem et vous regardez les Juifs orthodoxes, ils vont avoir ces petites boîtes en avant sur leur front ou sur leurs mains. Dieu a dit, n'utilisez plus ces choses-là, ne faites pas ces choses-là, parce que vous l'avez à l'intérieur de vous par l'esprit que je vous donne. Donc, nous les lirons sur nos mains, sur le fronton entre nos yeux, parce que nous devons ou nous voulons suivre la loi de Dieu. Et nous allons être différents du monde qui nous entoure. Encore une fois, gardez votre place dans Deutéronome. En fait, vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez, parce que nous allons nous y référer tout le temps, nous allons toujours revenir. Mais reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Et qu'est-ce que Christ nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15? Donc, Christ ici, par l'entremise de Paul, nous dit, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. » Donc, nous devons être différents. Nous devons impliquer la loi de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Et Deutéronome 6 nous dit exactement ces choses. Nous avons été choisis par Dieu pour mettre en pratique ce qui nous est enseigné et ce que nous devons comprendre. Nous devons assimiler ces choses-là. Elles doivent apporter un changement dans notre vie. Maintenant, reportons-nous à Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Et le verset 6 et 7. Qu'est-ce que le Christ nous dit ici? Il parle à la nation d'Israël, à cette deuxième génération. Il dit, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. » Il nous parle à nous. Nous sommes saints, nous sommes mis à part pour une mission spéciale. Nous avons été sanctifiés par Christ. Et nous devons comprendre ces choses-là. Nous sommes un peuple saint pour ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Nous n'avons pas choisi Christ, c'est lui qui nous a choisis. Nous avons réagi à l'invitation, oui, mais c'est lui qui nous a appelés. Nous lui appartenons. Car vous êtes les moindres de tous les peuples. Et encore une fois, frères et sœurs, lorsqu'on regarde qui nous sommes tout petits parmi le monde entier. On est quoi, peut-être 10 000, 15 000 personnes présentement? Sur 8 milliards d'individus? Comme dirait M. Meredith il y a longtemps, nous sommes comme la moitié d'une écaille de peanut au milieu de l'océan Pacifique. On n'est presque rien. Mais on voit ici que Christ fait une promesse. Qu'il a choisi un peuple, qu'il a choisi des gens pour le représenter. Et cette même promesse nous est donnée à nous. Reportons-nous dans 1 Corinthiens 1. Et encore une fois, vous voyez la puissance de qu'est-ce que Dieu fait. Ce sont des versets que vous devriez connaître, que nous devrions connaître. Mais 1 Corinthiens 1, verset 26, nous dit quoi? Il dit, considérez, frères, que parmi vous, qui avait été appelé, Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu nous considère comme les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu commence toujours petit. Nous sommes les petits de ce monde. Nous n'avons pas beaucoup d'importance. Enfin, nous n'avons pas d'importance du tout. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde autour de nous. Mais Dieu va être capable de nous utiliser pour être capable de montrer au monde qu'il y a une voie de vie qui fonctionne. Et nous devons être les exemples de cette voie de vie. Maintenant, nous allons sauter les chapitres 8 à 12. Encore une fois, ce sera peut-être un devoir que vous pourrez avoir de lire les chapitres 8 à 12, voir qu'est-ce qui s'y rapporte. Ce sont des chapitres qui sont historiques, mais en même temps mêlés avec des avertissements absolument puissants. Des avertissements que nous devrions prendre à cœur. Et maintenant, reportons-nous à Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Et c'est un verset ou un chapitre ici absolument important, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et que nous allons voir dans les années futures. Deutéronome 13, commençons au verset 1. Il y a des concepts ici qui sont énumérés. Et vous allez voir, il y a trois groupes différents dans Deutéronome 13. Et nous devons nous retenir, nous devons retenir ces événements-là parce que ce sont des choses que nous allons voir, que nous allons devoir nous débattre avec au cours des prochaines années. Deutéronome 13, commençons verset 1. Il est marqué « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. » Donc, on voit ici un songeur ou un prophète qui se présente, et il fait une prophétie. Demain matin, il va y avoir X, Y, Z. Et demain matin, X, Y, Z se produit. Et il est écrit ici, par la suite, de regarder qu'est-ce qu'il vous annonce. Parce que s'il dit en même temps que demain matin, ça reproduira X, Y, Z, mais que nous devons aller nous présenter devant Dieu dimanche prochain, des choses qui ne sont pas ce que Dieu nous dit, n'écoutez pas ce changeur, même si le signe se réalise. Verset 3. Qui n'écoutera pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu qui vous a mis à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa loi ou à ses voies, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Et ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de nos jours? Encore une fois, si vous connaissez la prophétie, qu'est-ce que la bête et le faux prophète vont commencer à faire? Ils vont réaliser des prodiges. Ils vont réaliser des miracles. Mais ces miracles vont vous demander d'observer le dimanche, d'observer des lois qui ne sont pas celles de Dieu. Ne les écoutez pas. Et je vais extrapoler un peu plus loin. Aujourd'hui, nous avons énormément de personnes qui sont sur Internet. Nous avons toutes sortes de programmes, toutes sortes d'informations qui roulent sur l'Internet. Eh bien, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Il vous demande de regarder ce que ces gens disent et de les comparer avec ce que la Bible nous dit. Parce que oui, plusieurs personnes aujourd'hui vont arriver avec toutes sortes de belles et nouvelles choses. La prophétie de Dieu est en train de se réaliser ici, regardez! Ou la prophétie de Dieu est en train de faire ça, et regardez! OK, c'est très joli, très gentil. Mais est-ce que ces gens-là suivent ce que Dieu dit? Ces gens-là observent-elles le sabbat? Ces personnes-là observent-elles les lois de Dieu? Nous les voyons-nous à la fête des tabernacles à tous les années? Les voyons-nous à la Pentecôte? Donc, si la réponse est non, ce qu'ils disent n'est pas vrai. Elle peut sembler intéressante, peut sembler beau, peut sembler cute, mais ce n'est pas le cas. On doit comprendre ces choses-là. Reportons-nous à Ésaïe chapitre 8. Ésaïe 8. Et regardez l'avertissement ainsi que le Christ nous donne au verset 20. Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe nous dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple en français. En anglais, c'est il n'y a pas de lumière pour le peuple. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Pourquoi il n'y a pas d'aurore pour le peuple? Parce que le Christ, qui est la lumière du monde, n'est pas là. Dieu ne travaille pas avec les gens qui n'obéissent pas à sa loi. C'est aussi clair que ça. Dans Actes 5, 32, qu'est-ce que le Christ nous donne? Ce n'était pas dans mes notes, mais dans Actes 5, 32, qu'est-ce que Dieu nous dit? La deuxième partie du verset. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À tous ceux qui ont une belle jolie voix et qui font les programmes sur Internet. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Acte 5, 32, la fin nous dit que Dieu a donné son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. On ne peut pas faire autrement. Dieu ne donne pas son Saint-Esprit à quelqu'un qui ne suit pas les commandements de Dieu. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui n'obéit pas au sabbat, il n'aura pas le Saint-Esprit de Dieu. Et tout ce qu'il va dire ne peut pas être vrai. Et si nous les écoutons, nous allons nous mêler. Ils vont vous mettre de fausses idées dans la tête. Ils vont vous empêcher de progresser, d'aller de l'avant, parce qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues. Et Satan va les utiliser absolument pour vous empêcher de fonctionner. Encore une fois, commencez par des choses de base. Mais regardez les choses de base. Ce merveilleux personnage sur Internet ou cette personne sur Internet qui dit tant de belles choses, observe-t-elle le sabbat? Observe-t-elle les lois de Dieu? Les fêtes de Dieu? Sinon, arrêtez de les écouter. Je mentionne cette phrase des centaines de fois par année à des gens qui appellent au téléphone. Ils sont intéressés, ils disent « vos programmes sont fantastiques, etc., etc. » Mais il y a aussi M. X, Y, Z, et M. l'autre, et M. C. Ils disent aussi des belles choses, ils suivent la Bible. Vraiment, ils suivent la Bible? Est-ce qu'ils suivent le sabbat? Ouais, mais est-ce qu'ils suivent le sabbat? S'ils ne suivent pas le sabbat, Dieu n'est pas là. C'est aussi simple que ça. La Bible est directe, est franche. S'ils ne parlent pas selon la loi et le témoignage de ce livre, il n'y a pas de lumière en eux. Jésus-Christ n'est pas là. Et encore une fois, frères et sœurs, oui, il y a plein de bons monde dans le monde. Ouais, mais c'est une bonne personne. Tout à fait compréhensible. Oui.
Est-ce qu'il observe la loi de Dieu? Non, il ne fait pas. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne est gentille, est belle, est magnifique. C'est pas là qu'il y a la différence. C'est pas qu'est-ce qu'on doit rechercher. Et donc, si on revient à Deutéronome 13, la première portion de ce chapitre-là parle des personnes qui vont faire des ministres ou des gens qui sont sur Internet, des influenceurs, ou peu importe, et qui vont annoncer des signes intéressants ou des prophéties. Et que si ces prophéties-là se réalisent, ne les écoutez pas. Maintenant, les versets 6 à 13, 6 à 11 du chapitre 13. Si ton frère, si ta mère, de ton fils, ta fille, la femme de ton qui repose sur ton sein, ou des amis que tu aimes comme toi-même, t'incitent secrètement à dire, allons et servons notre Dieu, les dieux de nos que ni tes pères n'ont élevé connu, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié et tu ne l'épargneras pas. Donc, n'écoutez pas ces gens-là. Qui sont-ils? Ça peut être des gens proches de vous. Même très proches de vous. Mais on doit regarder. Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils veulent que l'on observe les lois de Dieu? Et sinon, on ne les écoute pas. Et le troisième groupe, si vous descendez au verset 12 à 17, il est marqué « Si tu entendis au sujet d'une des villes que t'as donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. Et si la chose est vraie, tu les élimineras. Tu ne les écoutes pas. » Donc, encore une fois, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? De regarder notre société, nos villes. Qu'est-ce qui est propagé autour de nous? Et de regarder qu'est-ce que les gens autour de nous nous demandent ou nous disent que nous devrions faire. Et ceci devrait aussi inclure pas juste les soi-disant prophéties, mais aussi tous les différents aspects par rapport à la santé, par rapport au comportement sociétal, à la vie. Encore une fois, aujourd'hui, on a plein de choses qui sortent, qui semblent bon. Ne buvez pas de lait. Le lait est mauvais pour vous. Avec telle conséquence. Dieu nous dit, dans la Bible, buvez du lait. Ne prenez pas de grains, c'est mauvais pour vous. Le blé, c'est méchant. Les tomates, c'est méchant. Il y en a plein. Prenez le régime keto ou le régime kitty, ou prenez le nom que vous voulez. Qui vous demande d'éliminer des choses qui sont pas bibliques. Ne les suivez pas. Bien évidemment, si vous avez des allergies, vous êtes allergique aux noix, eh bien, vous êtes sage, ne mangez pas de noix. Oui, il y a des allergies, oui, il y a des conditions médicales, etc., etc. Mais après ça, regardez ce que la Bible vous dit. Mangez équilibrément. Trop de sucre, c'est pas bon. Trop de viande, c'est pas bon. Il y a un balan qu'on doit avoir, que la Bible nous donne. Si vous regardez le menu que Abraham a servi à Christ, c'est assez riche, merci. Du fromage, du lait, de la viande. Extraordinaire. Mais on doit faire les choses selon qu'est-ce que la Bible nous dit. Et frères et sœurs, dans tout ce département-là ou dans tout ce chapitre-là, verset 13, chapitre 13, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? En arrière de tout ce jugement-là, vous devez savoir ce que la Bible vous dit. Vous devez avoir prouvé ce que la Bible vous dit. Si la Bible n'est pas prouvée pour vous, si c'est pas clair, si c'est pas certain dans votre esprit, comment est-ce que vous pouvez prendre des décisions éclairées sur le restant? Donc, voyez-vous l'importance de comprendre, de connaître ce qui est écrit dans cette Bible. Et encore plus dans ce livre qui vous est dédié, qui est le Deutéronome. C'est un livre qui nous appartient. Donc, c'est absolument important que nous comprenions ces choses-là. Maintenant, le verset 14, au chapitre 14. Le début du chapitre nous parle de quoi? Justement, de qu'est-ce que je vous disais il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que nous pouvons manger au niveau de la viande? Les lois pures et impures au niveau des aliments. Donc, est-ce que Dieu nous dit de ne pas manger de porc? Oui, Dieu nous dit de ne pas manger de porc. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour nous. Point à la ligne. Dieu nous dit de manger telle sorte de poisson. Les qualificatifs manger un poisson sont quoi? Avoir des écailles et des nageoires. Un requin a des nageoires, mais ça n'a pas d'écailles. Un homard, c'est rien qu'une écaille, ça n'a pas de nageoires. Donc, on ne mange pas ça non plus. Donc, on voit le chapitre 14 absolument important. Au milieu du chapitre 14, on commence à parler des dîmes, des offrandes. Chapitre 15, l'année des relâches, etc. Le chapitre 16 nous parle des fêtes, les trois saisons de l'année. À tous les fois lorsque nous avons une offrande, lors d'un jour saint, c'est le seul temps où on fait des offrandes. Ils sont commandés. Eh bien, on voit dans Deutéronome 16, verset 16, vous connaissez le verset par cœur, je m'y reporterai pas. Et regardez ce que le Christ nous dit ici à partir du verset 18, Deutéronome 16, verset 18 à 20. Le Christ nous dit, tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus. Ils jugeront les peuples avec justice. Tu ne porteras point atteinte à aucun droit, et tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent la parole des justes. Principe qui était, ou qui est encore appliqué, dans la majorité des démocraties occidentales. Une personne en poste d'autorité ne doit pas accepter de cadeaux. Sauf maintenant M. Trump. Avec toutes les excuses qu'il donne. Mais c'est intéressant. Les lois que l'on a majoritairement dans nos nations, s'ils sont supportées par des lois bibliques. Donc, on n'accepte pas de pot de vin, comme on le dit fréquemment en français. Verset 20. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, on voit ici comment on doit appliquer la justice. Les juges ne doivent pas pervertir la justice. Ils n'acceptent pas de pot de vin. Poursuivons un peu plus loin dans notre étude. Deutéronome 17, versets 8 à 13. Regardez ce qui est écrit. S'il y a une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, et te paraît trop difficile à juger, et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers le sacrificateur, les Lévites, et vers celui qui remplira alors la fonction de juge. Tu les consulteras. Et ils te feront connaître la sentence. Et regardez le verset 10. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront.
Encore une fois, le principe est absolument extraordinaire. Les gens devaient accepter la sentence, devaient accepter le jugement. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah non, je suis pas d'accord avec ce jugement-là, je vais aller en appel. Et là, vous allez à une cour d'appel. Ah non, la cour d'appel n'a pas jugé contre moi encore, donc je monte encore un peu plus haut. Je vais aller à l'autre, et à l'autre, et à l'autre. Et finalement, vous allez à la cour supérieure. Et ensuite, ça va être la cour suprême. Le temps perdu. Et cette chose, cette application du jugement, va être un acte. Quelque chose qui va être appliqué dans le millénaire. Imaginez la surprise de M. Pierre Jean-Jacques qui a fait quelque chose contre la loi et il y a un jugement qui est porté contre lui, mais il n'est pas d'accord. Et il dit, je vais aller en appel. Et on va pouvoir lui dire, il n'y a pas d'appel. La décision est finale. Tu fais ce qui t'est demandé. Et évidemment, à ce moment-là, il n'y aura pas de fausse ou de mauvaise décision qui va être prise. Dieu va être impliqué dans toutes les décisions. Dieu va donner la réponse à toutes les décisions. Soit par sa famille, donc nous, qui aurons l'autorité de Christ, ou soit par le Christ lui-même, si c'est lui qui rend justice, peu importe ce que ce sera. Et la décision sera toujours une décision de justice et ne sera jamais pervertie. Quelle puissance extraordinaire! Regardez aussi qu'est-ce qui existe dans Deutéronome 19, versets 1 à 13. Regardez le principe qui est utilisé ici. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne et aura chassé les nations de ce pays-là, il dit au verset 2, tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne possession. Tu établiras des routes, tu diviseras en trois parties le territoire. Et ici, on voit qu'il y a des villes-refuges qui sont mises à la disposition. Et quelles sont ces villes-refuges et à quoi servent-elles? Verset 5, un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt et un autre homme va avec lui. Si la hache en main, il s'élance pour abattre un homme, le fer s'échappe de la hache ou du manche et atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort, donc un accident. Cet homme pouvait aller se réfugier dans une ville-refuge et attendre le jugement. Les homicides involontaires sont différents des meurtres prémédités. Si vous allez au verset 15 de ce même chapitre, regardez un des principes puissants qui existent. Il dit, si un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour contester un crime ou un péché, quel qu'il soit, en fait, il pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Un principe puissant. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons des principes ou des systèmes où on a une personne qui décide d'apporter une accusation contre une autre. Et aujourd'hui, on sait que bien souvent, c'est fait avec de mauvaises intentions. Mais peu importe. Donc, le Christ nous dit, ça prend des témoignages de deux ou trois personnes pour établir les faits. Et on peut extrapoler cette même méthode de faire de nos jours. Si vous semblez ou vous lisez sur Internet, vous avez une nouvelle qui semble tellement belle, tellement intéressante. Avant de publier cette belle et intéressante nouvelle, un, confirmez la source. Deux, regardez s'il y a d'autres sources qui réfèrent ou qui parlent de la même chose. Est-ce que vous êtes capable de recouper la nouvelle sur deux, trois autres sources? Et à ce moment-là, vous pourrez avoir plus de véracité sur la signification de ce témoignage. Ce sont des choses qui sont importantes à même voir appliquer de nos jours.
Maintenant, allons un peu plus loin. Allons dans Deutéronome 22, s'il vous plaît. Encore une fois, on prend juste les plus gros principes. Au chapitre 22, Dieu veut que nous prenions soin de nos animaux. Il dit ici, si tu vois un berger ou si tu vois s'égarer un bœuf, pas un berger, mais si tu vois s'égarer un bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras pas et tu lui ramèneras ou tu la ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne. Tu feras de même pour son vêtement. Tu feras de même pour tout objet qu'il aura perdu et que tu trouverais. Tu ne devrais point t'en détourner. Un principe absolument fondamental. Dieu nous donne des animaux pour en prendre soin. Encore une fois, j'aimerais clarifier, des animaux sont des animaux. Donc, on doit faire attention à ces choses. Les animaux ont un but qui est de rendre la création magnifique, que l'on puisse profiter de la création que Dieu nous donne. De pouvoir aussi s'occuper d'un animal, c'est absolument fantastique. Mais selon les circonstances que l'on a. Mais Dieu nous demande de prendre soin de nos animaux. Évidemment, même si vous allez dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il est écrit que lorsqu'on a un bœuf, qu'on a un âne ou un chien, un chat, on peut faire la même chose. Le jour du sabbat, vous faites quoi? Vous vous occupez de votre animal. Vous donnez de l'eau, vous donnez de la nourriture. Si c'est des animaux domestiques comme un chat, un chien, si c'est un cheval ou une vache ou peu importe, vous devez vous en occuper le jour du sabbat. Une vache a besoin d'être traite deux fois par jour. Sinon, elle va souffrir. Elle peut même mourir. Donc, si vous auriez des vaches, allez. Qu'est-ce que vous faites le jour du sabbat? Vous trayez votre vache. C'est un must. C'est une obligation. Ce n'est pas enfreindre le sabbat. Si vos animaux sont dans une étable, vous devez les sortir le matin. Vous ouvrez la porte, vous les laissez sortir. C'est de prendre soin de nos animaux. Essentiel. Et le Christ étant même cette chose ici à les animaux de nos voisins, de nos frères, de prendre soin de ce que nous voyons autour de nous. Et le verset 4 ajoute, il dit, « Même si tu vois ton âne ou l'âne de ton frère ou son bœuf tomber sur leur chemin, tu ne t'en détourneras pas, tu l'aideras à se relever. » Absolument fantastique. Maintenant, regardez le verset 5. « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point le vêtement de femme. » Oh, la joie! Quelle différence que cela ferait dans notre société d'aujourd'hui. Qu'un homme soit un homme et qu'une femme soit une femme. Wow! Toute la mode aujourd'hui, androgyne. D'avoir une mode que peu importe, ça peut aller sur un homme, ça peut aller sur une femme. Non, soyons des hommes, soyons des femmes. Frères et sœurs, vous êtes une femme, habillez-vous comme une femme. Vous êtes un homme, habillez-vous comme un homme. Sachons quoi faire, comment nous habiller. Il y a des couleurs qui sont plus masculines, qui sont masculines. Il y a des couleurs qui sont féminines. Je m'excuse, mais moi, je ne porte pas de rose. Ça ne me va pas. Donc, il y a des choses comme ça. Un beau petit mot fuchsia, là, tu sais, c'est tout cute. Non! Si vous êtes une femme, absolument. Une rose est superbe. Un chêne, c'est différent. Vous le verrez pas en rose. Mais on voit ces choses-là. Donc, si nous sommes un homme, ayons le comportement d'un homme, le déplacement d'un homme, comment s'habiller comme un homme. Encore une fois, le Christ nous dit dans sa Bible qu'un homme doit avoir les cheveux courts et une femme doit avoir les cheveux longs.
Regardons les exemples qui nous sont donnés. Regardons ce que Dieu nous dit. Verset 6. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou les œufs, tu ne prendras pas la mère et le petit. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Qu'est-ce que le Christ nous dit? Il dit, ne prenez pas la mère. Ne détruisez pas la source de nourriture. Nous devons faire les choses d'une certaine manière. Donc, ne détruisez pas ce qui fournit la nourriture. Le verset 8 nous parle de lorsque vous bâtissez une maison. Et dans le temps des Israélites, les maisons étaient à toit plat. Et ils faisaient souvent des balcons. Faites une balustrade autour de votre toit afin que personne ne tombe en bas. Prendre soin des autres. Versets 9, 10 et 11 parlent de différents aspects de la vie. Lorsque vous semez quelque chose, semez une vigne, ne mélangez pas les grains. Lorsque vous labourez, utilisez un bœuf avec un bœuf et non pas un bœuf avec un âne. Ça fonctionne pas. Même parmi les chevaux, si vous utilisez deux chevaux, on va utiliser deux chevaux qui sont pareils. On n'utilise pas un cheval de course et un cheval de trait. Ça fonctionne pas. Et vous pouvez continuer à descendre ici, le temps manque ici dans le chapitre 22, mais regardez les utilisations que Dieu nous donne. Et ensuite, le verset 11, je vais juste prendre un petit peu de temps d'aller au verset 11. Et où il est écrit, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Et parfois, on a des questions qui nous sont posées. Est-ce qu'on peut prendre du synthétique? Donc, le synthétique n'existait pas dans le temps de Moïse. Mais ici, on parle vraiment de fibres naturelles. Et non pas de fibres synthétiques. Mais vous pouvez prendre des fibres synthétiques sans aucun problème. Mais ici, on parle de mélange entre deux tissus différents ou deux contrastes différents entre des tissus différents. Un tissu animal va être beaucoup plus fragile qu'un tissu animal, qu'un tissu végétal. Donc, on mélange pas du lin et de la laine. Ils vont se déchirer l'un l'autre. Votre linge va se briser très rapidement. Mais si vous mélangez un lin avec une fibre synthétique, ils vont ensemble. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, le principe ici est pour la durabilité du vêtement. Et de ne pas mélanger une fibre végétale avec une fibre animale. Parce que ça ne fonctionne pas ensemble. C'est là que le principe ici qui est donné. Donc, ne mélangez pas une fibre animale avec une fibre végétale. C'est le principe qui est donné ici en question. Et ensuite, au verset 12, je vais juste simplement mentionner ceci rapidement. Au verset 12, le Christ ici nous donne, tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Et les gens peuvent peut-être poser la question, à quoi servent les franges? Pourquoi les franges? Eh bien, si vous allez dans Nombre 15, et regardons rapidement versets 37 à 41. Versets 37 à 41, c'est marqué par les enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange sur le bord de leur vêtement, qu'ils mettent un cordon bleu sur la frange au bord de leur vêtement. Et quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Donc, pourquoi les franges? À quoi servaient les franges? Vous les regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements que l'Éternel, votre Dieu, vous a demandé de mettre en pratique et que vous suivriez pas les désirs de votre cœur ou de vos yeux de vous laisser entraîner à l'infidélité. Donc, les franges étaient pourquoi? Pour se souvenir des lois de Dieu. Est-ce que vous avez besoin d'un signe extérieur aujourd'hui pour vous souvenir de suivre les lois de Dieu? La réponse est non. Parce que le Christ vous a donné son esprit à l'intérieur de vous lors du matin. Donc, cette mémoire physique de se rappeler de quelque chose n'existe plus aujourd'hui. On n'a pas besoin de franges. On n'a pas besoin de cordon bleu. On n'a pas besoin de phylactères sur nos mains et sur notre front. On n'a besoin d'aucune de ces choses parce que le Christ nous a donné son esprit. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il y a tant de choses que nous n'avons pas abordées aujourd'hui dans le livre du Deutéronome. Mais j'aimerais conclure avec ceci. Beaucoup des lois que nous avons vues aujourd'hui nous paraissent peut-être étranges. Parce que nous sommes si éloignés de ce mode de vie. Elles nous sont totalement étrangères, ou tellement étrangères que nous ne comprenons pas toutes les raisons qui sont en arrière. Mais Dieu a mis ces lois en place pour le bien de la nation. Pour que la nation puisse grandir, pour que la nation puisse fructifier. Pour que les nations qui entourent la nation d'Israël physique dans le temps veuillent imiter et apprendre les lois. Toutes ces lois et tous ces jugements nous donnent à nous la connaissance et nous permettent d'être une nation juste, une nation sainte, comme le Christ nous demande de faire. Et si vous vous rapportez dans Deutéronome 28, versets 1 à 14, vous allez voir que le Christ nous dit ici, nous prendrons juste un verset, Deutéronome 28, verset 1. Le Christ nous dit, si tu obéis la loi de la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité dans toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Verset 3. Tu seras béni. Le mot béni ici veut dire envié des autres. Les autres vont chercher à nous suivre, vont chercher à vouloir nous copier. Parce qu'ils vont voir les bénédictions qui sont attachées. Ces lois, les statuts que Dieu nous donne au travers du livre de Deutéronome sont là pour établir une nation sainte. Donc, c'est un livre que nous devons connaître. Et c'est tout à fait logique. Vous avez probablement entendu souvent l'Église qui mentionne, lorsque nous arrivons près de la fête des tabernacles, relisez le livre du Deutéronome. Prenez le temps d'établir la loi. La fête des tabernacles est là pour nous aider, pour nous montrer à craindre l'Éternel, à connaître la loi de Dieu. Donc, regardons ce livre. Étudions ce livre. Nous devons réfléchir à ces principes et appliquer à nous-mêmes les principes qui y sont attachés dans l'application du 21e siècle. Nous devons réfléchir à ces principes et les appliquer nous-mêmes. Car, encore une fois, le livre du Deutéronome est un livre pour notre génération.